Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Et tout de suite, voici les titres de ce journal Nord Kivu. Les affrontements sont signalés ce mardi sur l'axe Mabenga, Rwindi, au nord du territoire de Rutshuru. Dans l'entretemps, à l'issue des violents combats contre les FARDC, les rebelles du M23 ont occupé hier lundi plusieurs autres localités dans les territoires de Rutshuru et de Massissi. En Ituri, plusieurs centres d'enrôlement des électeurs dans les territoires d'Irumu éprouvent d'énormes difficultés de fonctionnement. C'est à 12 jours de la clôture de cette opération dans cette partie est de la RDC. La situation humanitaire est déplorable sur le site des personnes déplacées à Djaïba, à 5 km au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou. Olivier Boudza de l'ONG AIDS, gestionnaire de ce site, revient sur les conditions dans lesquelles vivent ces personnes hébergées sur ce site. Il est notre invité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nord Kivu, les affrontements sont signalés ce mardi matin sur l'axe Mabenga-Rwindi, au nord du territoire de Rutshuru. C'est à quelques heures avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu annoncé par la rébellion du M23 pour ce mardi à midi. Pendant ce temps, ces rebelles ont occupé hier lundi les localités de Kirima et Kibirigi, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, ainsi que Mpati et Kirumbu, groupement de Bachali Mukoto, en territoire de Massissi. C'était à l'issue de violents combats contre les FARDC. Des détails avec Blaise Nongala.
Dans les territoires de Massissi où s'est déployé les contingents burundais à Mumbambiro, près de 5 heures en attendant l'arrêt des hostilités annoncées pour ce mardi par les rebelles du M23, le FARDC et les groupes armés locaux sont en alerte maximale, indiquent plusieurs sources locales. Ils affirment ne pas croire à cet engagement annoncé par la direction du M23 à Luanda après un accord conclu vendredi dernier avec les présidents en exercice de la CIRGEL. Pour nos sources, ces rebelles ont pris ces 3 derniers jours 3 autres agglomérations importantes du groupement Bachali Mukoto, notamment Kirumbu, Mpati et Kashuga. Mais la forte résistance les empêche jusqu'à présent à prendre les contrôles de la cité stratégique de Sake. Dans les territoires de Rutshuru, par ailleurs, ces rebelles, soutenus par les Rwandais, ont occupé hier lundi Kibirizi et Kirima dans les groupements Mutanda en attendant d'avancer vers la Rwindi. Ce qui explique les combats violents signalés jusqu'à ce mardi matin autour de ces camps situés au cœur du parc national de Virunga. Différentes sources contactées restent donc sceptiques sur le respect de ces cessez-le-feu avec le développement de la situation depuis le week-end dernier dans la région.
Le secrétaire général de l'ONU exhorte les M23 à respecter les cessez-le-feu afin de créer les conditions nécessaires à son retrait total et effectif de toutes les zones occupées à l'est de la RDC. C'est conformément aux décisions du ministre de Luanda tenues le 23 novembre 2022, a indiqué ce lundi 6 mars le porte-parole du secrétaire général dans son communiqué. Explication avec Honoré Missenga Kalala.
Le chef de l'ONU s'est félicité de l'initiative récente du président angolais João Lourenço, champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation, laquelle initiative a abouti à l'annonce du respect par le mouvement du 23 mars, M23, d'un cessez-le-feu à partir du 7 mars dans l'est de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général condamne toute violence contre les civils et renouvelle son appel à tous les groupes armés congolais et étrangers à déposer les armes et à désarmer sans condition, rappelle le comité. Il demande instamment à toutes les parties au conflit d'assurer un accès humanitaire immédiat et sans entrave à la population touchée et de garantir la protection des civils et le respect du droit international humanitaire. Il appelle également tous les acteurs à s'abstenir de tout discours de haine et d'incitation à la violence, rappelle Stéphane Dujarric dans le même communiqué. Antonio Guterres réaffirme le soutien continu des Nations Unies au processus de Luanda et de Nairobi par l'intermédiaire de sa représentante spéciale en République démocratique du Congo et de son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs et sa volonté d'intensifier les efforts pour instaurer la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo.
Au sujet effectivement de la cessation des hostilités, dans un communiqué qui vient juste de tomber, la direction du mouvement du M23 déclare l'effectivité du cessez-le-feu dès ce mardi 7 mars 2023 à 12h, heure de Bunagana. Cela en réponse aux engagements conclus devant le président d'exercice de la CIRGEL à Luanda afin d'ouvrir la voie au dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa, dit leur porte-parole. Cependant, alors que la rébellion dit s'engager à résoudre pacifiquement le conflit en cours dans l'est de la RDC, dit se réserver le droit de se défendre si ses positions sont attaquées. Cela pour protéger les populations civiles et leurs biens, selon les rebelles. En Ituri, plusieurs centres d'enrôlement des électeurs dans les territoires d'Iromou éprouvent d'énormes difficultés de fonctionnement. C'est à 12 jours de la clôture de cette opération dans cette partie ouest de la RDC. Il s'agit par exemple des centres d'Olongba dans le groupement Baviba ainsi que celui installé au pont Ituri où plusieurs machines sont en panne, affirme le coordonnateur de l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme. Cette situation a déjà conduit à la fermeture de certains centres, dont celui de Mungamba, à environ 90 km de Bounia. Les points avec Ezekiel Mousalia.
D'après la société civile du groupement Baviba, les machines déployées par la CENI pour mener l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans cette entité sont insuffisantes pour enregistrer plus de 20 000 personnes. Certains ordinateurs tombent chaque fois en panne, ce qui retarde ce travail d'enrôlement à 12 jours de la fin de cette opération selon les chronogrammes élaborés par la CENI. Au centre de Longba, une seule machine ne suffit pas pour enrôler 40 personnes par jour, s'indigne son coordonnateur Cédric Zalo. Sur l'axe Komanda Mambasa et Komanda Luna, presque tous les centres d'enrôlement ne sont plus opérationnels. Celui de Mungamba est déjà fermé depuis une semaine. Les habitants de cette contrée se rendent dans les territoires voisins de Mambasa pour établir leur nouvelle carte d'électeur. Christophe Mounyanderou, son coordonnateur, appelle la CENI à décanter cette situation qui risque d'avoir un impact négatif sur le nombre d'enrôlés dans ce territoire.
C'est un manque à gagner parce que c'est le territoire du Rumu qui est perdant. Vous savez, cette population qui est en train de s'enrôler dans le territoire de Mambasa, l'effectif de la population diminue, c'est-à-dire qu'aussi la représentativité du territoire du Rumu aussi va diminuer. Si à la CENI de prendre sa responsabilité, afin que cette population du village de Mungamba puisse s'enrôler juste à Mungamba.
Nous n'avons pas encore la réaction du secrétaire exécutif provincial de la CENI à ce sujet. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, quelques centaines de requérants sont privés d'accès pour se faire identifier et enrôler dans deux centres du groupement Waloa ou Roba. C'est dans l'est du territoire de Walikale. Cette dénonciation est faite par un notable du milieu. Celui-ci dit déplorer le caractère d'exclusion ethnique que prend cette privation du droit constitutionnel dans des centres, selon lui, notamment d'Entoto et Kilungu. Il demande à la CENI de se pencher sur la question. Chimi Imana Issa l'a dit à Bernard Denyangui.
Je parle plus précisément le centre d'Entoto, le centre de Kilungu, où les gens de Bouoye, Tchanumbo, Kacheche, Kungwe, Mibaraka se rendent au centre pour prendre les cartes d'électeurs. On leur refuse d'accéder alors que la CENI a programmé. Selon les sources d'information que nous avons, les propos verbaux et écrits du chef de groupement intérimaire. Il a interdit au président du centre d'enrôlement de Kilungu d'enrôler ces gens, alors qu'ils sont des Congolais et ils ont droit d'accéder aux cartes d'électeurs. Alors moi, je peur qu'ils auront une très grande difficulté de se déplacer en province, même dans le pays. Je recommande au chef du centre d'Entoto et Kilungu d'enrôlement d'enrôler ces gens.
La problématique du désengorgement de la frontière de Kasumbalesa est au centre des discussions ce mardi dans la terre zambienne entre le ministre du Commerce extérieur et son homologue zambien. Jean-Lucie Boussa en a parlé ce lundi au gouverneur du Haut-Katanga peu avant de quitter la ville de Lubumbashi où il était en transit. Pour lui, il sera question de trouver des solutions définitives pour favoriser la fluidité du commerce à ces postes frontaliers qui est stratégique pour le pays. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou.
Il y a quelques soucis en termes d'engorgement, de trac, le long de nos frontières respectives. Nous sommes venus pour que ces questions trouvent des réponses claires, rapides, mais aussi que nous puissions nous mettre d'accord sur la perspective des réponses structurelles. Il est clair que lorsque les frontières sont encombrées, ça réduit la fluidité du commerce. La frontière Kasumbalesa, ça a été une frontière stratégique pour la République démocratique du Congo. Le plus gros de nos exportations passe par là. Le plus gros des importations que nous réalisons avec l'Afrique australe aussi passe par là. Il est important que lorsque ces questions sont soulevées, telles qu'elles existent aujourd'hui, que les responsables compétents au niveau politique, donc les ministres, puissent se rencontrer, mais aussi les responsables techniques. Nous venons ici avec l'espoir que les frontières vont être désengorgées. Le gouverneur nous a dit que des décisions ont été prises pour réduire le nombre des barrières sur la route. Au nombre des 12, je pense qu'il en reste 2. Hein. Nous avons besoin de réponses précises. Nous avons besoin d'un commerce fluide. Nous avons besoin des services aux frontières qui travaillent de manière parfaite, de sorte que nos économies puissent se développer.
Vous venez de le suivre, le ministre du Commerce extérieur conduit donc une délégation congolaise en Zambie pour discuter enfin de trouver des solutions définitives à la pénible question de désengorgement des véhicules à la frontière entre la RDC et la Zambie. Cette situation, tant décriée par les opérateurs économiques et les autorités des deux pays, ne favorise pas la fluidité du trafic entre la RDC et les pays de l'Afrique australe. Qu'est-ce qui peut expliquer cet engorgement? Tentative des réponses avec Jean Gandou.
Les camions remorques en attente de traverser la frontière en import et en export sont souvent très nombreux à Kasumbalesa. Du côté congolais, la file peut commencer à environ 20 km, soit au village Kimono, voire au-delà. Du côté zambien, la file peut aller jusqu'à la ville de Chililabombwe, située à près de 30 km de la frontière. Mais qu'est-ce qui explique les longues files d'attente qui sont souvent observées de part et d'autre de la frontière de Kasumbalesa? Pour certains opérateurs économiques, il y a notamment le nombre sans cesse croissant des camions remorques qui font le trafic entre la RDC et les pays de l'Afrique australe. Les autres évoquent la lenteur administrative à la douane. Cette lenteur est aussi accentuée par les nombreuses interruptions des connexions Internet pour les formalités administratives à remplir avant toute traversée. À Kasumbalesa, la douane ouvre ses portes à 6h du matin pour se refermer à 18h30, tant du côté congolais que du côté zambien. Et toutes ces difficultés mises ensemble ne permettent pas la fluidité du trafic. À noter aussi que par jour, ce sont plus de 300 camions qui traversent la frontière de Kasumbalesa en importation et autant en exportation. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Sud Kivu, Médecins sans frontières alerte sur l'augmentation anormale des cas de violences sexuelles dans sa zone d'intervention de Salamabila. De 4446 cas répertoriés dans la zone de son intervention, la zone de santé de Salamabila dans le Maniema est en tête avec 2605 cas dans la période de janvier au février 2023. Myriam Laroussi, l'adjointe chef des missions Médecins sans frontières, s'est exprimée à la presse hier lundi à Bukavu à l'occasion de la célébration du mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Ce propos sont recueillis par Fidela Wakumana, notre stagiaire.
De manière générale, ce qu'on voit à Salamabila en particulier, c'est un nombre de cas de violences sexuelles qui est extrêmement élevé. Aujourd'hui, on parle de 96% de femmes, à peu près 4% d'hommes, et sont des chiffres qui tournent sur 85 patients que MSF reçoit et prend en charge par semaine. Donc on est vraiment dans une situation de crise liée à la situation de violences sexuelles. Côté MSF, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment d'une part une véritable sensibilisation au sein de la communauté pour essayer un petit peu de casser toutes les barrières qui sont liées à cet état de fait. On s'assure que les tabous sont cassés. Une femme qui a été violée est une victime de violence sexuelle. Elle n'a pas cherché ou provoqué la violence sexuelle. On s'assure que cette femme puisse avoir un accès aux soins qui est gratuit et qui est absolument confidentiel. Pour ça, à Salamabila, on a mis en place ce qu'on appelle l'école des femmes et l'école des hommes pour un peu casser tous les préjugés qu'on peut avoir face à la violence sexuelle.
Actualité internationale.
La prise de la ville de Bakhmout, épicentre des combats acharnés dans l'est de l'Ukraine depuis deux mois, est nécessaire pour la suite de l'offensive russe, a affirmé ce mardi le ministre russe de la Défense. Cette ville est un nœud important des lignes de défense des soldats ukrainiens dans les Donbass. Sa prise sous contrôle permettra de mener de nouvelles opérations offensives en profondeur contre la défense des forces armées d'Ukraine, a déclaré Sergueï Shoigu lors d'une réunion des cadres de son ministère, diffusée à la télévision.
L'invité.
La situation humanitaire est déplorable sur le site des personnes déplacées à Djaïba, à 105 km au nord de Bounia dans les territoires de Djougou. Nous sommes à Ituri. Olivier Boudza de l'ONG AIDS, gestionnaire de ce site, revient sur les conditions dans lesquelles vivent ces personnes hébergées dans ce site. Il est notre invité et s'entretient avec Marcel Kizabiamungu.
Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, dites-nous, quelle est la situation humanitaire au site de Djaïba, ici à Fataki?
Merci. Bon, depuis notre arrivée dans ce site ici comme gestionnaire de site, car nous travaillons avec l'organisation AIDES comme gestionnaire et la coordination c'est de la part des OIM. Depuis notre arrivée ici, bien sûr, il y avait quelques humanités qui étaient passées ici pour assister la population dans les sites, mais malheureusement, il n'y a pas encore assistance à terme de vivre depuis, je ne sais pas, à peu près 10 ans. Mais à part ça, il y a certainement, nos concerts ONG qui arrivent pour cette comme DRC qui ont construit à peu près 1165 abris depuis l'année passée, mais le besoin n'est pas encore terminé. Et à part ça, nous pensons qu'il y a un grand besoin à vivre pour la population déplacée d'ici de ces sites.
En termes de familles ou ménages qui sont hébergés ici au site de Djaïba, on peut estimer à combien les nombres?
Bon, le nombre presque exact, c'est 1679 ménages. Si à terme d'individus, c'est 8305 en moyenne.
Et la plupart de ces personnes proviennent de quelle entité?
Bon, la plupart sont venus des groupements Sumbuso, c'est Baïma Nord. D'autres sont venus d'ici à Defataki, des différentes localités telles que Boubou, Ndaka, et ainsi de suite.
La scolarité des enfants ici, ça se passe comment?
En termes de l'éducation, en tout cas, il n'y a pas d'assistance. Il y a un problème quant à la prise en charge d'éducation. Il y a des enfants qui sont obligés de fréquenter les écoles un peu loin, qui n'arrivent pas à aller loin, ils restent ici dans les sites. Il n'y a même pas des organisations qui viennent les encadrer pendant la journée. Là, ils sont en train d'errer dans les sites, ça et là.
On peut estimer à combien le nombre d'enfants en âge scolaire?
Le nombre d'enfants à l'âge de scolarité, ils peuvent être dans les 5000. Comme nous avons la base de la MONUSCO ici à côté de nous, et les enfants, vous allez le constater avec moi pendant la journée, en train de circuler tout autour de ces clôtures-là pendant la journée. Et puis, du coup, ils prennent le goût de rester sans étudier. Les parents n'ont pas assez de moyens d'abord pour les nourrir le matin avant d'aller à l'école. Du coup, affamés, les élèves se révoltent pour ne pas aller à l'école. Là, nous avons aussi une école ici, l'EPKALICHA, qui n'a pas assez de bâtiments pour contenir ces enfants-là.
Un message aux autorités pour sauver quand même la vie scolaire de ces enfants?
Oui, s'il y a moyen qu'ils puissent nous venir en aide afin de construire des infrastructures, par exemple ici, quand nous avons un petit espace ici, où on peut construire des bâtiments, afin que ces enfants-là, au lieu d'aller loin, de fréquenter directement ici proche de leur site de déplacement, et les infrastructures scolaires aussi, et pour les enseignants effectivement, et de prendre les enseignants en charge à terme de salaire.
Alors, vous êtes ici au site de Djaïba Fataki, vous avez fui les atrocités des groupes armés dans vos villages. Pourquoi avez-vous choisi de venir ici à côté de cette base de la MONUSCO?
En fait, pendant qu'il y avait attaque au niveau du centre Fataki vers Mission, la paroisse, les assaillants avaient encerclé la population. Alors, ils ne savaient comment quitter de là, venir ici. Et c'est avec l'effort d'une équipe de la MONUSCO qui était partie les secourir là-bas, c'est avec ces cortèges-là qu'ils ont quitté de là et prendre la population qui était au niveau du centre de Fataki qui est venu s'héberger ici. À côté de la MONUSCO, c'est ça un peu ce que c'est par rapport à ailleurs, bien sûr.
Si on vous demandait de rentrer aujourd'hui dans vos villages respectifs, est-ce que vous êtes d'accord ou pas?
Non, presque c'est l'avis de tout le monde de quitter les sites et revenir dans leur village habituel parce que la condition de vie ici est vraiment précaire. Il n'y a pas moyen d'aller au chat, car chaque fois vous allez apprendre des informations que non, tel était parti au champ et puis revenu. Si seulement on assurait la sécurité pour la population, les gens regagneraient volontairement leur village de provenance. C'est ça les grands besoins et les soucis majeurs de notre population d'ici.
Est-ce qu'il y a des cas de violences sexuelles qui sont enregistrées, des grossesses précoces dans ces sites?
Les cas de violence à terme de l'âge qui est préétabli dans notre constitution, oui, parce que nous constatons qu'il y a des filles mineures qui sont enceintes. Mais dénoncer de tels cas-là, en tout cas, c'est peu rare. Bon. Mais en voyant comme ça, vous allez constater que non, il y a de ces filles-là qui se promènent ça et là avec des grossesses. C'est dû au manque de scolarité et aussi les parents qui n'ont pas assez de moyens pour prendre leurs filles à charge. Du coup, ils se donnent la prostitution, etc.
Merci.
Et je vous remercie.
Olivier Boudza, gestionnaire du site de déplacés de Djaïba dans le territoire de Djougouan-Itouri, était l'invité de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.